RMC, le week-end des experts, 6h-8h, votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Il est 7h10, c'est RMC, bonjour à tous et à toutes et bienvenue chez nous. C'est le week-end des experts, vous le savez. Tout à l'heure entre 8 et 10, ce sera la maison. La maison, vous le savez, c'est avec Christian PC. Christian PC qui répondra à toutes vos questions bricolage maison déco entre 8 et 9. Et entre 9 et 10, on évoquera les outils. Avoir les bons outils sans les acheter. Comment se procurer des outils sans les acheter? Faut-il les louer? En boutique, sur le net, est-ce qu'on peut se les échanger entre particuliers? Peut-on les emprunter dans une bricothèque? Eh bien voilà, on évoquera tous ces petits plans sympathiques. Et puis bien sûr, vous pourrez poser vos questions et témoigner tout à l'heure au 32-16. Mais dans l'immédiat, vous le savez, nous sommes au cœur de ce rendez-vous jardin avec Patrick Mulan. Et jusqu'à 8h, nous allons parler des épices, Patrick.
Voilà, on va parler des épices. Il y a un mot quand même que je voulais relever. Vous avez parlé de bricothèque. C'est la première fois que j'entends ça.
C'est pas mal, hein?
Quelque chose de tout à fait nouveau.
La bricothèque.
On va créer aussi une jardithèque. Peut-être pas. Il y avait un salon professionnel qui s'appelait Jardithèque, mais tech pour les technologies.
Ah oui.
Alors, je voulais vous citer en préambule de cette spéciale sur les épices, quelques lignes d'un texte que j'ai emprunté au numéro 639 de la revue de la Société nationale d'horticulture de France, qui s'appelle Jardin de France, et qui avait pour thème, donc, sur la route des épices, et qu'on trouve tout à fait sur le net, donc sur snhf.org. Si le terme d'épice emprunté du latin species fut d'abord un terme médical pour évoquer des substances végétales, on l'employa rapidement et surtout à la Renaissance pour désigner des denrées de luxe réservées aux gens fortunés. D'ailleurs, il y a eu des bagarres, des guerres carrément pour les épices. Aujourd'hui, les épices évoquent toujours un monde merveilleux, exotique, coloré et parfumé, éveillant nos sens du goût et de l'odorat. Je pense que c'est une très belle description de ce que peut être ce monde des épices. Un monde des épices important puisque le marché mondial est évalué à 4 milliards de dollars. Alors sur des choses qu'on utilise en quantité infime, c'est quand même colossal. Et sachant que l'Union européenne représente plus de 30% des importations mondiales, notamment de poivre, et 20% de piment. Donc nous sommes des gros consommateurs de ces épices qui, pour la plupart, sont quand même des produits d'origine exotique. Hein. Alors il faut se rappeler quand même que les pays coloniaux, dont la France, hein, mais l'Angleterre, la Hollande, la Belgique, ont été les plaques tournantes mondiales du commerce des épices, avec des guerres qui se sont produites, notamment à l'époque sur la mer, hein, entre ceux qui allaient chercher les épices, qui les rapportaient, qui se faisaient voler, etc. Et on a conquis des régions entières uniquement pour les épices. Bon, si on a aujourd'hui, par exemple, une île comme la Réunion qui appartient à la France, c'était aussi pour la vanille, par exemple.
Tiens.
Bon, l'île Maurice a été quand même longtemps, d'ailleurs avec un monsieur qui s'appelait Pierre Poivre. Faut quand même le faire. Il s'appelait Pierre Poivre.
Il a été
délégué à l'île Maurice pour réunir toutes les épices possibles imaginables qu'on trouvait dans ces contrées de l'océan Indien. Donc voilà des choses comme ça. Puis bon, je pense que l'expédition de Bougainville aussi avait comme idée de base de rapporter aussi certaines épices. Et si je me rappelle bien, alors là, j'étais pas encore bien évidemment, mais je pense que Christophe Colomb était aussi parti à la découverte des Indes, puisque en fait il voulait aller aux Indes de l'autre côté, il a découvert l'Amérique alors qu'il cherchait aussi, je crois, un peu quelques épices. Alors voilà, je voulais poser un peu le tableau. Alors on va parler aujourd'hui essentiellement de ce que l'on appelle des épices. Alors sont quoi les épices? C'est ce qui renforce la saveur et stimule les perceptions à la fois olfactives et gustatives. C'est quelque chose assez puissant généralement. Alors que les aromates ajoutent une saveur particulière. Et c'est les herbes, hein, le basilic, le romarin, le thym, le persil, tout ça. On en parlera dans quelques semaines, je crois, le 16 avril.
Oui,
hein.
Oui.
Donc on fera une spéciale. Donc aujourd'hui, on va parler que de ça. Et puis attention, il y a aussi les condiments. Mais les condiments ont tendance, eux, à apporter plutôt une note un peu salée ou acidulée. Donc là, on est sur les épices. Alors on verra un peu tout ce que sont les épices. Alors pour parler de cela, on va aller faire un grand voyage. On va aller en Asie, alors pas le chemin de Christophe Colomb, là on va y aller quand même directement vers l'Est, pour retrouver Phnom Penh, la capitale du Cambodge, et Olivier Derenne.
Alors il va être
là dans quelques instants.
Dans quelques instants.
Je lui demandais d'ailleurs pourquoi il se présente comme un chasseur de poivre et d'épices. Chasseur de poivre et d'épices, c'est extraordinaire. Il est donc le PDG du comptoir des épices et il est en train de nous préparer un bouquin là-dessus. Alors Christian, les épices, pour vous, ça évoque...
Je vous remercie de m'inviter.
Bonjour Christian.
Merci de m'accorder 3 heures sur le sujet. C'est absolument impeccable, puisque nous sommes sur le produit le plus protecteur de la dégradation cellulaire. Et c'est en plus un produit qui était chassé pour réaliser des concoctions pour les grands peintres, pour les grands sculpteurs.
Ah oui.
Et absolument. Tiens. Et on le voit bien dans les explications du jardin Pamplemousse à l'île Maurice. Et ça, c'est extraordinairement merveilleux. Moi, je suis très heureux de voir que Patrick Mulan remplit le travail que faisait Jean-Marie Pelt à l'époque. Nous sommes vraiment sur un sujet majeur que nos jeunes générations ont totalement oublié et qu'on retrouve aujourd'hui chez les grands chefs, chez les chefs qui ont l'art de la cuisine, l'art du goût, l'art du plaisir. Et je dirais que les épices doivent être mis tous les jours dans des plats. Ce sont des micro-thérapeutiques.
Alors déjà, ça c'est important, ce sont des micro-thérapeutiques, mais vous venez de dire un truc, il faut les mettre dans les plats, parce que évidemment, voilà. Un plat sans saveur, par exemple, je sais pas, vous faites une purée de pommes de terre, si vous mettez un poil de noix de muscade
ben oui, bien
dans
sûr.
La pomme, ça va complètement changer, mais... Je viens de dire, c'est un soupçon, c'est ça qui est
c'est relevé en fait, c'est relevé un plat.
Les épices, alors là, bon, il faudrait plutôt avoir des chefs de cuisine que des chefs jardiniers.
Susciter les sens.
Exactement.
Voilà, ça va, oui.
Dès le plus jeune âge, sans écraser et provoquer de trop grandes variations d'énergie neurologique, parce que quand on en a trop,
oui.
on est dépolarisé.
Bien sûr.
Et il faut commencer très tôt pour éduquer les enfants aux épices. Et c'est vrai qu'en mangeant fast-food, on n'est pas vraiment habitué à ça.
alors les épices, je vous reconnais bien. Patrick, on revient dans un instant.
Voilà, les épices, on les utilise soit seuls, soit en mélange également.
Bien évidemment. Et puis, alors Christian l'a évoqué, hein, visiblement les épices ont des vertus thérapeutiques, mais on va rentrer dans les détails. Est-ce qu'il y a des épices qui sont plus intéressantes que d'autres? Le 3216, jardin@rmc.fr. N'hésitez pas à nous appeler ce matin ou à nous contacter par mail pour nous dire si vous êtes un adepte des épices, si vous aimez ça, si vous avez des petites recettes. Ou alors si vous en cultivez chez vous, dites-nous. Et si vous nous joignez par mail, chose importante, n'oubliez pas de nous laisser votre numéro de téléphone pour qu'on puisse vous rappeler. On est là dans une minute. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. RMC, jusqu'à 8h, votre jardin. Patrick Mulan, François Sorel.
Voilà, nous sommes de retour, 7h20, c'est RMC. Le week-end des experts, le jardin, les épices. Ce matin avec Christian Henquet, notre médecin nutritionniste, Patrick Mulan, bien évidemment. Et notre invité, qui est à quelques milliers de kilomètres de chez nous, Olivier Derennes, Patrick, que nous accueillons tout de suite, qui est chasseur de poivre.
Alors oui, ça me titille complètement. Bonjour Olivier, bienvenue avec nous.
Bonjour.
Bonjour.
Bonjour. Alors vous vous présentez comme un chasseur de poivre et d'épices. Pouvez-vous nous en dire un peu plus sur ce mystère?
Alors, plus que déjà avant toute chose, un petit point à préciser, nous travaillons en tandem, nous sommes deux personnes, donc Olivier Derennes, moi-même et Gérard Vivre, qui est déjà l'une des sommités dans le monde du poivre. Nous sommes un tandem qui parcourt la planète à la recherche de ces petits grains précieux, hein, le poivre, mais également toute une gamme d'épices que déjà bien d'autres grands explorateurs ont pu découvrir et faire découvrir avant nous.
Alors je disais au début de notre émission que le poivre avait généré pas mal de guerres et même de conquêtes aussi. À l'époque de la colonisation, il a été un des alibis, si je puis dire, pour pouvoir essayer de conquérir des terres, et ça a été un peu sanglant.
Aux origines, le poivre était déjà source de convoitise, puisque c'était un produit, tout comme les épices, qui était très utilisé par les religieux, qui suscitait un petit peu de mysticisme, et très très vite, il s'est imposé comme un produit également de valeur parce que il était une véritable monnaie d'échange et effectivement sous l'emprise de toutes les convoitises. Gérard pourrait vous en dire un petit peu plus.
Alors, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que tous ces grands navigateurs, en partie la Méditerranée, ont été financés par les cours royales et aussi par le clergé. Ils sont partis pour les épices, mais ils sont aussi beaucoup partis pour évangéliser. Et ils ont utilisé des méthodes qui n'étaient pas toujours très propres. Voilà. Et Vasco de Gama, il a débarqué à Catalunya en 1498. Il s'est écrié en arrivant en Inde, en étant pied au sol indien, et il a écrié pour Dieu et pour les épices. Voilà.
Quelles étaient les épices les plus qui avaient le plus de valeur à l'époque?
Je pense que le poivre, ça faisait partie de ça.
Le poivre a toujours été l'épice reine, et il y a une expression qui est restée, qui est cher comme poivre.
Ah oui, cher comme poivre.
Deux autres épices se sont rapidement imposées, également étaient très très recherchées, qui étaient le clou de girofle et la noix de muscade.
Voilà, oui, c'est ça, les épices un peu, on va dire, asiatiques. Alors, moi j'avais quelques éléments qui sont assez étonnants, du genre que le contenu d'un poivrier valait plus cher, enfin à l'époque, que le prix d'une voiture d'aujourd'hui, et que aujourd'hui on produirait dans le monde 180 000 tonnes de poivre, alors que 100 grammes de poivre permettent de, on va dire, d'assaisonner 800 plats, quoi. Donc c'est quand même énorme. Aujourd'hui, tout le monde mange du poivre, quoi, on va dire.
Alors, il faut savoir que, ramener la valeur de l'époque du Moyen-Âge aujourd'hui, c'est un petit peu délicat. Bon, c'est vrai que aujourd'hui, le poivre, après le Moyen-Âge, c'est assez rapidement vulgarisé. Aujourd'hui, c'est un produit complètement banal qu'on retrouve sur toutes les tables. Voilà, nous travaillons pour un petit peu redorer le blason de cette épice et lui redonner la place qu'il mérite, justement, en cherchant des choses exceptionnelles. Maintenant, par exemple, en ce qui concerne les chiffres du poivre sont jamais extrêmement précis parce que c'est une matière première cotée en bourse et il y a beaucoup de fausses informations qui circulent, voilà. Donc c'est un peu difficile. Mais par exemple, en Inde, qui est le plus grand consommateur, il faut savoir qu'ils utilisent absolument dans tout leur mélange, tout leur masala, et ce qui fait que l'Inde, qui est un très gros producteur, ne se suffit pas à sa production, ils sont obligés d'acheter dans d'autres pays.
Ce qui est un petit peu dommage, c'est que le poivre s'est tellement vulgarisé au cours des 150 dernières années qu'on en a oublié les qualités majeures. Un poivre, ce n'est pas simplement quelque chose qui vient apporter un petit peu de piquant ou un petit peu de ce côté un petit peu exotique dans un plat. Il y a beaucoup de critères qui doivent être retenus, tous les critères organoleptiques qui font la différence entre un bon poivre et un mauvais poivre, à savoir la couleur, l'odeur, la texture, le goût. C'est assez compliqué de pouvoir sourcer un poivre dans la régularité. Nous étions encore il y a quelques jours à Foucault, où nous avons visité l'un des paysans qui produit du poivre pour nous. L'année dernière, il nous a fourni un poivre qui était absolument exceptionnel. Lorsque nous sommes venus sur place pour voir s'il y avait possibilité de retravailler le même poivre cette année, nous lui avons demandé quelle était la qualité cette année. Son retour a été immédiat. C'est exactement la même qualité que l'année dernière. Mais hélas, non. Peut-être visuellement, nous avons peut-être les mêmes choses. Mais en termes de goût, en termes de texture, en termes d'odeur, nous étions aux antipodes de ce que nous avions pu avoir l'année dernière.
Oui, en fait, il y a comme des crus de poivre. On va essayer d'améliorer la qualité de la ligne parce que c'est pas terrible au Cambodge. C'est bien dommage parce que vous êtes passionnants, messieurs. Mais on va essayer de réparer tout ça. Christian, en quelques secondes, le poivre, c'est un aliment intéressant au niveau nutritionnel.
C'est un aliment intéressant parce qu'il suscite chez le consommateur une stimulation neurologique, ouvre l'appétit et donne au consommateur la sensation de plaisir. Le poivre apporte également des phénols et des antioxydants. Et le fait d'en mettre au quotidien, toute sa vie durant, pour chacun des plats, d'accord, en passant du poivre au gingembre, du gingembre à d'autres épices, eh bien, ça permet d'apporter ces micromolécules en quantité régulière. Ce qu'on peut regretter aujourd'hui, c'est que ces habitudes ont totalement disparu.
On en parle dans quelques instants.
Alors, c'était considéré comme un aphrodisiaque, il faut quand même le dire.
Ah, bah oui, le poivre, c'est...
Le premier aphrodisiaque, c'est aimer.
Oh, c'est beau, Christian. La météo, les infos sur RMC. On parle des épices ce matin. 3216 jardin@rmc.fr si vous voulez réagir. Posez vos questions. À tout de suite.
Rejoignez les experts jardins sur leur page Facebook, Votre Jardin sur RMC. RMC, jusqu'à 8h, Votre Jardin. Patrick Mulan, François Sorel.
Le retour du week-end des experts, le jardin, les épices ce matin, Patrick Mulan.
Voilà, les épices, on était en plein dans le poivre. Alors je voulais vous dire quand même deux mots sur la plante, parce qu'on a parlé essentiellement de l'épice. Oui. Le poivrier, c'est une liane. Alors c'est une liane qu'on cultive très souvent le long des arbres qui ombragent les caféiers. Mais on fait aussi parfois des cultures de poivre sur des pylônes. Hein. Alors ça peut atteindre 5-6 mètres de hauteur. En culture, on est plutôt autour de 3-4 mètres maximum. Et ça fait des belles feuilles en forme de cœur avec des nervures bien marquées. Et à l'aisselle de ces feuilles apparaissent des petites fleurs blanches qui donnent donc naissance à des grains. Donc des petites grappes vertes. Et c'est là que... On a les différences de poivre, c'est-à-dire qu'au départ, on va le cueillir vert et on va avoir ce fameux poivre vert, frais.
Oui.
Quand on le fait sécher, il devient le poivre noir. Et si on décortique cette petite baie une fois séchée, ben on obtient le poivre blanc.
D'accord. Voilà. Avec chaque fois des saveurs.
Des saveurs que, alors là, il faudrait en parler avec nos amis du comptoir des poivres, là, qui sont à Phnom Penh.
Voilà, on l'a Olivier de Rennes et Gérard Vive. Messieurs.
Alors, on parlait donc de ces différents types de poivre classiques, hein, bien sûr, il y en a beaucoup d'autres. Comment vous les appréhendez ?
C'est une petite chose par rapport au poivre blanc. Le poivre blanc, on est avant toute chose sur une baie qui va plutôt se récolter à maturité, lorsqu'elle est rouge. Et cette baie rouge, on va la mettre à tremper dans une eau, de préférence une eau fraîche que l'on va renouveler assez régulièrement, de telle manière à pouvoir évacuer le péricarpe, donc qui est la peau, mais également la pulpe, et la graine qui va naître en fin de compte par frottement ensuite sera mise à sécher et vous donnera ce poivre blanc extrêmement aromatique que l'on apprécie énormément avec les viandes blanches, les poissons.
Voilà. Alors il faut dire aussi qu'il y a des plantes qui sont appelées poivre et qui n'en sont pas, du moins sur le plan botanique, puisque les poivriers sont des pipères. Quand on a le poivre du Sichuan, par exemple, c'est un xanthoxylum, c'est-à-dire une plante d'une autre famille. On a aussi, par exemple, les baies roses, on parle parfois de poivre rose.
Oui, oui, oui.
Le chinus, c'est encore une autre plante. Donc le mot poivre, maintenant, c'est un petit peu galvaudé, si je puis dire, à travers des différentes baies qui sont très différentes.
Nous avons avec nous Colombe qui veut témoigner ce matin. Bonjour Colombe.
Bonjour François, bonjour Patrick.
Bonjour Colombe, bienvenue.
Bienvenue.
Alors, je vous écoute tous les samedis matins.
Ah, c'est sympa, merci.
Pour le jardin, pour la maison, voilà.
Ouais. Et alors vous êtes professeur de cuisine, c'est ça ?
Alors j'étais professeur de cuisine puisque je vais avoir 78-30 ans.
Ouais.
Et j'ai enseigné pendant 30 ans dans un collège la cuisine et la couture, voilà.
Et les épices.
Et je suis de parents, mon papa était pâtissier, chocolatier, glacier. Et il faisait des chocolats avec du safran, avec du poivre et avec du piment. Voilà. Et j'ai ensuite mes deux enfants, un qui est dans l'Ain, c'est la safranière du Bugey dans l'Ain, et l'autre
production.
C'est la safranière du Verdon dans le Midi.
Ah donc deux safraniers. Hein, c'est...
Alors, les deux, le safran. Voilà.
Alors, le safran, c'est vrai que ça fait partie des épices. Peut-être, c'est même peut-être la plus chère.
Oui,
c'est la plus chère, oui, oui.
Parce que, bon, là, on va utiliser simplement les stigmates d'une fleur de crocus. Donc, c'est vraiment tout petit tout.
Ça coûte une fortune, quoi. Le gramme de safran,
c'est... Je sais pas, Colombe, ça coûte combien, le safran?
C'est-à-dire qu'il faut quand même entre 200 et 250 fleurs pour faire un gramme.
Voilà,
il faut savoir qu'il faut planter des crocus, Donc il faut les désherber 3 fois à la main. Il n'y a aucun produit chimique sur le sol.
Oui.
Et il faut les ramasser le matin. La floraison commence vers le 4 ou 5 octobre, ça dépend des régions. Et il faut les récolter le matin avant que la fleur s'ouvre, parce qu'après il y a toutes les abeilles et les bourdons qui viennent de butiner. Et ils mélangent les étamines sur les stigmates, et ça fait du jaune sur les stigmates rouges. Voilà. Donc c'est cueilli à la main, c'est émondé, on appelle ça émondé, à la main. Donc il faut presque une bonne heure, voire une heure et demie pour émonder ces 200-250 fleurs pour récolter 1 gramme de safran.
Que
donc, pensez qu'il y a la plantation,
ouais,
3 désherbages à la main, la récolte à la main, le triage à la main, en plus de le séchage. Donc il faut presque entre 2h30 et 3h pour récolter 1 gramme de safran.
Voilà, d'où la valeur
du produit. Alors
de ce produit,
c'est mécaniquement, c'est impossible.
Et oui, voilà.
Alors, ce qui a été dit par Colombe et qui est important de dire, c'est vrai que le crocus, on imagine la fleur qui fleurit en ce moment, mm-hmm, ou qui est un peu en terminaison, alors que là on est sur des crocus d'automne. Donc c'est des plantes qu'on va planter dans le courant du printemps, donc des bulbes, et qui vont se mettre à fleurir à l'automne.
D'accord. Colombe, vous vouliez passer un message et inciter les jeunes à goûter aux épices, parce que c'est ce qui ça se perd, c'est ce que disait tout à l'heure Christian d'ailleurs, Christian Ricard.
Écoutez, moi j'ai 7 petits-enfants et je fais donc une cuisine avec beaucoup beaucoup d'épices, et ils m'appellent Mamie Curcuma. Parce que dans le curcuma, il y a donc la curcumine, oui, le poivre, la pipérine,
oui,
le safran, la saframine, et je mets beaucoup d'ail aussi avec la lysiline, et l'oignon, la quercétine. Donc ce sont des micromolécules qui boostent le système immunitaire.
Ah.
Et avec ça, il y a très peu de gens malades.
Vous pourriez en parler des heures avec Christian Ekia, qui est avec nous.
Madame, parce
vous
que avez... j'ai quand même 30 ans d'études sur la nutrition.
Oui, oui.
Je n'ai pas de diplôme, mais enfin, je suis autodidacte en nutrition. Et j'ai donc enseigné pendant les 4 dernières années dans mon collège. J'enseignais donc la cuisine et la diététique. Et je leur ai fait des cours sur les
d'accord,
les épices.
Ouais. Christian, vous confirmez ce que dit Colombe?
Non seulement je confirme, mais nous pensons désormais que la population étant maintenant formée à l'équilibre alimentaire, il faudrait maintenant commencer la cuisine et l'équilibre alimentaire en leur expliquant comment ces plantes épices se développent et comment elles sont actives au niveau de la santé. Et quand on voit le prix que ces produits avaient au Moyen-Âge et après, on comprend tout à fait qu'à l'époque, c'était une façon finalement de se soigner, c'était une façon d'équilibrer la flore intestinale, c'était une façon donc de stimuler le processus immunitaire. Et encore aujourd'hui, avec le clou de girofle et tout simplement 2-3 gousses d'ail par jour avec du clou de girofle et puis d'autres éléments comme le poivre, mm-hmm, et bien un petit peu comme ça tous les jours,
ça fait des antiseptiques.
Dès qu'un enfant a 3 ans, et bien il faut à chaque fois lui proposer ces petites choses, en commençant par l'ail, en commençant par l'échalote, en commençant, ça donne à l'enfant la capacité de dire, ce sont des goûts prégnants, mais l'enfant s'y habitue et ensuite il accepte. Aujourd'hui, un enfant de 12 ans qui n'a jamais bénéficié de cet exercice n'accepte plus ces produits, et aujourd'hui nous avons des générations complètes,
sûr,
qui ne mettent plus jamais
donc,
de poivre.
Il faut éduquer les papilles.
Il faut
aussi
éduquer les papilles, absolument. Et l'éducation commence à 3 ans.
Colombe, elle a évoqué le curcuma qui est une épice assez voisine du gingembre, puisque ça fait partie de la même famille, des Angiberacées. Et à Montréal, il y a un laboratoire qui travaille sur la recherche contre le cancer et qui semble avoir observé des propriétés très intéressantes de prévention en consommant du curcuma par rapport donc au cancer. Vous avez
alors,
tout là-dessus.
Notre amie, à l'instant, cette dame magnifique vient de nous exposer quelques noms de molécules comme l'épicatéchine, et puis il y a la proanthocyanidine, la zéaxanthine et d'autres molécules également. Ce sont des réparateurs de membranes cellulaires, et quand les membranes cellulaires sont réparer grâce à ces antioxydants qui préservent les membranes de gras de chacune de nos cellules, on évite les dégénérescences cellulaires, et on peut penser que certaines épicatéchines sont là pour réparer les les latéralités des chromosomes. Les chromosomes ont des latéralités qui permettent finalement d'être les photocopieuses pour refaire les chromosomes. Et nous sommes là sur des produits qui agissent sur la réparation chromosomique. C'est extrêmement intéressant. Et c'est pour ça que un tout petit peu chaque jour de sa vie, ça fait à la fin d'une décennie beaucoup de thérapeutiques apportées sans avoir rien vu. Une soupe, c'est systématiquement, on finit la soupe dans le bol avant de la goûter, on éparpille des épices sur la soupe après l'huile d'olive et du basilic.
Qu'est-ce que vous conseilleriez comme épice justement sur la soupe, Christian?
Ça, c'est une question une question de culture. Stéphane Gégaud chez l'ami Jean pourrait nous proposer, d'ailleurs on pourrait l'inviter une prochaine fois pour qu'il nous explique comment il éparpille ses épices. Oui. Il faut les mélanger, il faut en avoir 4 ou 5, et peut-être qu'on pourrait proposer sur le blog une recette avec, c'est ce que je vais faire dès aujourd'hui, on va vous proposer une recette
sur la page Facebook de
RMC, hein. Absolument.
D'accord.
Alors il y a une épice quand même importante dont on n'a pas encore parlé, c'est le piment. Le piment, ça fait quand même partie des bases. Alors, c'est pas trop dans la culture occidentale, le piment. Même si, en France, on a maintenant le piment Espelette. Mais quand on regarde sur le marché, le piment Espelette, c'est un micro-marché. C'est une niche, comme on dit, hein, par rapport à ce qui se vend chaque année en piment. Le piment, je vais peut-être interroger nos amis qui sont
au Cambodge.
Au Cambodge, le piment, ça fait partie de votre travail, messieurs.
Olivier.
Parti répond. Nous intéressons à toutes les épices et je pense qu'il y a un vrai travail à faire pour un petit peu ramener le piment sur table parce qu'il y a des. Il est souvent, quand on dit pimenté ou épicé, ça a une connotation péjorative, on dit que ça emporte à la bouche, voilà, ou ça arrache la gueule. Alors que nous avons déjà sourcé des piments magnifiques dans différents pays, et ça fait partie des choses que nous proposons, voilà. Parce que dans les piments, il y a d'ailleurs une unité de mesure, avec l'échelle Muscoville, et il n'y a pas que des piments extrêmement forts. Voilà. Il y a des piments qui sont tout à fait adaptés au palais des Occidentaux, pour lesquels cette épice n'est pas culturelle, il n'y a pas d'habitude. Le palais doit s'habituer au piment, et ensuite on en découvre toute sa subtilité.
Mais est-ce qu'il y a des vrais terroirs de piments, comme il y a des terroirs aussi peut-être avec les poivres, comme on l'avait vu dans une émission précédente sur le café, est-ce que en fonction des origines, on a vraiment des goûts très très variables?
Absolument. Mais il y a d'une part les terroirs, mais bon, il y a les variétés aussi, qui sont très importantes. Hein. Mais le terroir existe. Le piment d'Espelette, c'est la seule épice européenne qui bénéficie d'une... d'une AOC, je crois qu'il y a aussi le safran de la Manche, donc ça veut dire qu'il y a, la notion de terroir est complètement avérée.
Et la consommation, par exemple, le piment d'Espelette, on a tendance à le consommer plutôt séché. Moi, je trouve que ça perd un peu de goût, parce que quand même, le piment, il n'y a pas que la puissance, il y a aussi quand même une vraie saveur derrière ça.
Vous touchez à l'étang, vous venez de dire, une fois séché. La notion de séchage est primordiale pour le rendu final des épices, que ce soit pour le poivre, que ce soit pour le safran, que ce soit pour le piment. Beaucoup de gens font ça de manière, un peu industrielle, ou même quand c'est sur des petites exploitations, ils font ça un peu machinalement, ils vont à la facilité, souvent en utilisant des fours, alors que le séchage doit être extrêmement lent et c'est quelque chose qui doit être surveillé pour justement préserver tous les arômes du produit de base, voilà.
Gérard, merci beaucoup. On va revenir dans un instant et nous aurons Jean-Pierre avec nous. Jean-Pierre qui est charcutier et qui veut nous dire qu'il utilise beaucoup les épices quand on est charcutier. Selon lui, il est capital d'en utiliser beaucoup. On en parle dans un instant. Et puis si, tout comme Jean-Pierre ou Colombe que nous avons eu il y a un instant, vous voulez témoigner ou poser vos questions sur les épices, c'est le moment ou jamais. 3216, jardin@rmc.fr. À tout de suite.
Le week-end des experts sur RMC, votre jardin. RMC, le week-end des experts. Votre jardin, François Sorel, Patrick Mulan.
Voilà, 7h48, c'est RMC, le week-end des experts, le jardin et les épices ce matin. Jusqu'à 8h. avec nos invités Olivier de Rennes, Gérard Vive aussi, de Chasseurs d'épices et de poivres, le comptoir des poivres.com, hein, pour être précis, Patrick Mulan, Christian Requier, notre médecin nutritionniste, et nous accueillons Jean-Pierre qui est charcutier, qui nous a appelé au 32-16 ce matin. Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour Jean-Pierre.
Bonjour François, bonjour Patrick, bonjour docteur et tous vos invités.
Alors, vous êtes maître charcutier, Jean-Pierre, c'est ça ?
Maître charcutier traiteur, exactement. Et nous, les autres artisans charcutiers de France, nous utilisons beaucoup d'épices dans nos charcuteries.
Par exemple,
mettons dans la mortadelle, nous utilisons le coriandre, dans le pâté au poivre vert, on met du poivre vert, on met pas mal de muscade un petit peu dans toutes nos charcuteries. On utilise le girofle, le quatre épices, le thym, le cumin, le ras de la noutre, le poivre noir, le poivre blanc, l'anis étoilé, la cannelle. Donc, la badiane.
C'est-à-dire que pour vous, sans épices, il n'y a pas de charcuterie, de bonne charcuterie en tout cas.
Sans épices, il n'y a pas de charcuterie, ça serait un produit neutre.
C'est pour en fait, ça vous que êtes des matière... épiciers, vous n'êtes pas des charcutiers.
Même des chimistes à la limite.
Oui, effectivement, les produits que vous venez de citer, qui sont des épices remarquables en qualité, permettent à la charcuterie d'apporter une homogénéisation, d'apporter une conservation, d'apporter du goût dans le temps, et la matière première est mise en valeur, et évidemment, ça permet de faire des recettes différentes en fonction des variétés d'épices que vous proposez.
Ça peut aussi peut-être limiter le sel, non Jean-Pierre?
Oui, parce qu'on vous accuse souvent.
On a beaucoup diminué le sel. Avant, on s'allait à peu près à 25 grammes au kilo, maintenant on est à 18.
Voilà, et ça c'est merveilleux. Et pour un consommateur lambda comme moi et comme nous tous, eh bien le fait d'avoir des épices à table permet de faire disparaître la salière. Bien sûr, il faut du sel pour la préparation du repas lors de la cuisson, mais à table, pas de salière. À table, on apporte des ingrédients qui revalorisent le goût du produit par rapport à nos plaisirs.
Cela dit, le sel permet aussi de conserver,
ah oui,
non, la charcuterie.
Le sel technologique est partout et permet de préserver une charcuterie
sans
stable.
Sans sel, il n'y a pas de charcuterie.
Donc il faut un minimum de sel pour éviter la prolifération bactérienne, certes. Mais, et d'ailleurs, le seuil limite est aujourd'hui connu.
C'est combien?
C'est 1,8 g pour 100 g de jambon, par exemple.
Oui, donc on est à 18 g,
18
grammes
au kilo.
Et quand on descend à 1,6 ou 1,5, les bactéries se développent.
D'accord.
Il faut dire aux consommateurs.
Donc on est au minimum, c'est-à-dire qu'une charcuterie ne peut pas avoir moins de 18 grammes de sel.
Depuis 20 ans, on a réussi, et les grands charcutiers ont réussi comme les grands chefs, à trouver le seuil limite de la concentration de sel. Et lorsque j'explique qu'il faut enlever le sel de table, c'est que les technologues, les charcutiers, les chefs ont préparé des repas qui ont été, eux, salés. Et quand on est chez soi, eh bien, le fait d'avoir des épices permet finalement d'apporter du goût, du plaisir. Et on oublie le sel. Moi, quand je vois des jeunes qui ont une salière et qui blanchissent les repas de sel, c'est une catastrophe parce que finalement, on ne met pas en valeur les produits qu'on essaye de mettre en exergue aujourd'hui et qui ont une valeur santé magnifique.
Bon, je voulais. Gérard Vives, vous êtes toujours avec nous ?
Oui, oui, bien sûr.
Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec ça ?
Je pourrais un petit peu réagir, oui. Dire que d'abord je remercie Jean-Pierre d'utiliser beaucoup d'épices. comme je suis quand même un ancien chef, j'ai beaucoup travaillé dans divers domaines aussi, par curiosité, et notamment sur l'introduction des épices dans différents produits. J'ai beaucoup travaillé sur les charcuteries et j'ai constaté qu'on pouvait grandement améliorer la qualité de certains produits comme des saucissons, simplement en changeant le sel et le poivre, souvent dans des dosages plus faibles que ceux qui sont faits traditionnellement, mais en utilisant des sels et des épices de très grande qualité. Voilà.
Mais alors ça, c'est quand même la difficulté, parce que on en parlait un peu pendant la coupure. Aujourd'hui, la plupart du temps, quand vous achetez, mettons, on va prendre du poivre, puisque vous êtes le comptoir des poivres, on va trouver du poivre dans une petite bouteille qui est déjà hermétiquement fermée, plus ou moins avec son moulin, etc. On peut pas choisir, quoi. On va prendre simplement comme ça. On va dire du noir ou du poivre gris ou du poivre blanc ou du voilà. Mais comment on peut faire pour vraiment choisir son poivre?
Mais écoutez, il y a une seule solution, c'est comme quand on veut acheter du vin, on peut aller dans un supermarché, mais si on veut vraiment avoir un conseil et des produits de qualité, il faut s'adresser à des spécialistes. Voilà. Ah, donc oui. Il y a aujourd'hui des gens spécialisés, des épiceries fines, parce que même si vous avez une origine sur un poivre, ça garantit pas sa qualité. C'est un petit peu comme s'il a écrit Bordeaux sur une bouteille, ça ne veut pas dire que tous les vins sont identiques. Voilà, on sait qu'on va du pire au meilleur. Et c'est la même chose pour les poivres et pour toutes les épices. Donc, adressez-vous à des spécialistes. C'est des produits qui parfois sont un peu plus chers, mais pas toujours, puisque la grande distribution exagère très souvent sur les prix quand on connaît leur prix d'achat et la qualité médiocre qu'ils ont tendance à vendre. Donc, on utilise tellement peu d'épices qu'il faut vraiment faire l'effort d'acheter quelque chose de très belle qualité. Et de toute façon, on en utilisera moins et vous aurez un rendu beaucoup plus présent et beaucoup plus intéressant.
Christian, ce qui vient d'être dit est extrêmement important. On en utilise tellement peu que l'on peut se donner le plaisir d'acheter de la très grande qualité qui garantit l'existence Absolument. De phénol. C'est pareil pour le sel. Je mettrai en valeur le sel de Saïs de Béarn. Il n'y a pas de conflit d'intérêt là-dedans parce que je mets en valeur ce sel parce qu'on a démontré cette capacité à être d'une très grande qualité. Et au niveau des épices, c'est exactement la même chose. Il faut aller chez des professionnels qui sont des artisans du vivant. Et à partir de là, chaque année, on a des épices de qualité différente avec comme des cépages de grands vins. Et ça apporte de la grande qualité nutritionnelle et thérapeutique et apportant du plaisir à un repas. Je crois que c'est l'élément saillant de cette émission.
Enfin, moi, j'ai l'impression qu'on voit beaucoup de maisons de thé, par exemple, se développer, ou même de spécialistes de café. Oui. Des spécialistes des épices, il n'y en a pas autant que ça, hein, quand même.
Ah, oh, comme... Ouf. Christian ?
Dans les grandes villes, je sais pas, Gérard Vivès ?
J'ai trouvé qu'en travaillant avec les grands épiciers en France, il y a très peu de spécialistes qui m'ont fait rêver sur les épices. Et donc, aujourd'hui, je me retrouve là devant des spécialistes qui ont l'art à la fois thérapeutique, biochimique, culturel de l'épice, donc je dis bravo. Et ça, c'est un élément qu'on devrait diffuser plus grandement, parce qu'autour de moi, ça fait maintenant 35 ans que je travaille dans le monde agroalimentaire, je n'ai trouvé que très rarement des gens qui disent, par exemple, que de la charcuterie, ils mettent pas des produits chimiques, des E machin, mais ils mettent des épices. Ça, c'est un élément très intéressant. D'accord. Et il y a trop peu de charcutiers qui font ça.
Alors, on va aller sur le comptoirdespoivres.com.
Comptoirdespoivres.com
pour avoir des épices.
Christian Aka, merci beaucoup.
Merci infiniment, c'est un honneur pour moi.
Voilà, on a ajouté un petit peu de piment dans cette matinale.
Merci à nos invités du Cambodge.
Merci Patrick.
Bah écoutez, la bise aux jardinières comme d'habitude, et puis à ma petite jardinière, je l'oublie pas celle-là.
Et on vous retrouve samedi prochain.
Ah bah oui.
Christian PC là, les amis.
Mais oui, je suis là.
Et après, le jardin, maison dans un instant, avec 2 heures dédiées au bricolage de la maison, la déco.
Je vais en parler des outils, comment se les procurer sans les acheter, ce qui ne veut pas dire de les voler. Hein, non,
ça on peut pas. Hein. Non, mais c'est vrai que parfois, on a besoin d'un outil, quoi, une fois par an, parfois moins, et on peut...
Ça va être une bonne solution que de le louer, ou les différentes solutions que vous les avez évoquées tout à l'heure.
Voilà, on en parle. Et puis, bien sûr, vos questions, bricolage, maison, déco, 32-16. Météo, info, trafic. Et on revient. À tout de suite.
Retrouvez votre jardin en podcast sur rmc.fr.